Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Au sommaire ce soir, les tensions en Guadeloupe avec une troisième nuit de pillage et d'incendie. 38 nouvelles interpellations, les violences se poursuivent alors qu'une réunion doit avoir lieu demain à Matignon. Davina, à Pointe-à-Pitre, a assisté à une scène de pillage depuis son balcon.
C'était des bandes de jeunes habillés en noir, 10-15 ans, hein, c'était 100-150. Donc ça a duré quand même longtemps, mais tranquille, hein. Ils essayaient les chaussures et quand on voulait regarder, nous balançaient des pierres et des bouteilles de bière sur les balcons.
Et nous serons à Pointe-à-Pitre dans un instant. L'épidémie de coronavirus démarre de façon fulgurante en France, selon Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. En Europe, face aux mesures de restrictions sanitaires, les manifestations se multiplient. Après les Pays-Bas, l'Autriche ou le Danemark, 35 000 personnes ont défilé aujourd'hui à Bruxelles. Dans ce journal également, le débat relancé sur la cohabitation entre l'ours et l'homme. Un chasseur a tué hier en Ariège une ours qu'il avait attaquée. La 61e vente aux enchères des hospices de Beaune et nous irons sur les Champs-Élysées pour l'inauguration dans quelques minutes des illuminations de Noël. Vos rendez-vous de 19h avec la page sport et Sébastien Ogier, champion du monde de rallye automobile pour la 8e fois. On s'intéressera également à Peterson Seus, le Billy Elliott de la gymnastique rythmique. Notre rendez-vous, c'est mon actu, Sandrine Houdin avec Jean-Luc, un Père Noël vert du Secours Populaire. La météo inversée pour demain, humidité au sud, éclaircie au nord. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal. À 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Foucault. J'ai 9 ans. Je me demande à quelle époque sont apparus les premiers prénoms et d'où ils venaient. Merci. Au revoir.
Les petits bateaux Noël Bréham, après ce journal.
France Inter.
L'actualité ce soir avec la situation toujours préoccupante en Guadeloupe où les violences se poursuivent. Le début de la révolte, disent certains manifestants. Nouvelle nuit de pillage et d'incendie. Et une nouvelle fois, selon la préfecture de Guadeloupe, policiers, gendarmes et pompiers ont été visés par des tirs d'armes à feu. Deux membres des forces de sécurité ont été blessés. Une troisième nuit de tension, donc magasins, pharmacies, restaurants pillés malgré le couvre-feu. 38 nouvelles interpellations aujourd'hui. Et ce matin, c'est une scène de pillage que découvrent les habitants dans une rue de Pointe-à-Pitre. Le reportage sur place de Farida Noir avec Laurent Macchetti.
Le soir, il ne fait pas bon de marcher dans les rues. Hein ?
Le rideau de fer est défoncé, des boîtes de baskets vides étalées partout sur le trottoir, des mannequins en plastique dénudés. Il ne reste pratiquement rien de ce magasin de sport pillé la nuit dernière.
Ils ont tout vandalisé.
Tout. Comme son amie, Davina est estomaquée. Elle découvre l'étendue des dégâts. Elle habite tout près du magasin. Hier, elle a assisté au pillage depuis son balcon.
C'était des bandes de jeunes habillés en noir, 10-15 ans, hein, c'était 100-150. Donc ça a duré quand même longtemps. Mais tranquille, hein, ils essayaient les chaussures et quand on voulait regarder, nous balançaient des pierres et des bouteilles de bière sur les balcons. J'ai appelé plusieurs fois les forces de l'ordre. En fait, quand je les ai appelés, ils m'ont dit « on nous appelle de partout ».
Sur le trottoir, Julien, le fils du gérant, constate les dégâts. En quittant le magasin hier, il était plutôt serein.
Je pensais d'abord que ça allait bien se passer, parce qu'en début de soirée, on avait vu des camions de gendarmerie et de l'armée entrer dans Pointe-à-Pitre. Donc on s'est dit que ça allait être plus ou moins calme, enfin sécurisé. Vers 1h, 1h30 du matin, on a reçu un appel, des vidéos pour voir l'attroupement. Ils ont tout pris, tout cassé.
Dépité, son frère Jonathan attend l'arrivée de la police judiciaire.
Franchement, c'est vraiment atroce, quoi. On est dégoûté. Voilà. Il n'y a pas assez de renforts.
38 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue durant cette nouvelle nuit de violence.
Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a dénoncé aujourd'hui des violences intolérables et inacceptables en Guadeloupe et demain soir à Matignon. Le Premier ministre Jean Castex recevra les élus de Guadeloupe pour permettre un dialogue sur les conséquences de l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers, selon le communiqué diffusé par Matignon. Et en Europe, les mesures de restrictions sanitaires pour contrer l'épidémie qui s'emballe passent de plus en plus mal. Les Pays-Bas ont vécu deux nuits d'émeutes ce week-end. Des manifestations également au Danemark. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues à Vienne contre la vaccination obligatoire et le confinement de l'ensemble de la population qui débute demain en Autriche. Cet après-midi, la vague de protestations en Europe a gagné la Belgique. 35 000 manifestants à Bruxelles contre les nouvelles mesures anti-Covid et des affrontements avec la police anti-émeute. Angélique Bouin à Bruxelles.
La marche partie de la gare du Nord avait démarré pacifiquement. C'est à son arrivée dans
dans le quartier européen que les incidents ont éclaté. Jets de projectiles contre un barrage de police, riposte avec canon à eau et gaz lacrymogène. Selon certains médias belges, la colère des manifestants serait due à un problème de parcours, au fait que le cortège soit tombé nez à nez avec la police. Une manifestation baptisée « Ensemble pour la liberté », l'obligation depuis octobre dernier de présenter un pass sanitaire dans les bars, restaurants et lieux publics est présentée comme facteur de division dans la société par ses organisateurs. Ils dénoncent aussi l'obligation du port du masque étendue cette semaine hors école aux enfants de moins de 10 ans contre 12 auparavant. La Belgique passe enfin demain lundi en télétravail obligatoire 4 jours par semaine. Des hôpitaux annoncent qu'ils vont suspendre les visites aux patients et l'on attend un pic en soins intensifs d'ici la fin du mois. La vaccination obligatoire pour tous, après avoir été décidée pour les soignants, est désormais posée dans le débat public. La classe politique à ce stade est profondément divisée. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
À l'étranger, au Chili, les bureaux de vote ont ouvert pour l'élection d'un nouveau président. Premier tour aujourd'hui, un scrutin qui intervient 2 ans après un soulèvement social sans précédent au Chili contre les inégalités et en plein processus de rédaction de la nouvelle constitution. Les 15 millions d'électeurs vont donc devoir départager 7 candidats dont les 2 favoris se situent aux extrêmes du paysage politique chilien. Sur place à Santiago, Olivier Poujade.
Hola, buenas. Tenemos 4 filas esta vez.
Je suis émue et je suis très touchée.
Jérime ne s'attendait pas à voir autant de monde. Elle veut croire à une forte mobilisation. Pour elle, c'est toute la colère sociale présente dans les rues depuis 2 ans qui s'expriment aujourd'hui par le vote.
Paf, on explose. C'est comme une cocotte minute. Même peut-être des gens qui étaient un peu plus aisés, mais qui ont dit on est aussi exploités. On n'en peut plus, on veut un système plus collectif, plus social.
Elle misera sur Gabriel Boric, qui dit vouloir mettre un terme à l'excès néolibéral, vecteur de tant de frustrations pour les Chiliens. Santé, retraite, éducation, tout est privatisé ici depuis plus de 40 ans. Natalia, elle, est là sans trop de conviction.
J'ai pas envie de parler du candidat d'extrême droite. C'est une blague. Il va prendre les votes des militaires, des carabiniers, des évangéliques. Et Boric, pour moi, c'est un jaune. Tout ça, pour moi, c'est de la télé-réalité. Et je les trouve tous funestes.
Ils sont funestes tous.
Un candidat de gauche trop tiède, un pantin héritier de la dictature, les observateurs redoutent aussi ici la forte abstention de millions de Chiliens engagés dans la révolte sociale depuis 2019.
En France, à Paris, une manifestation cet après-midi à l'appel de plusieurs associations d'aide aux migrants, un rassemblement d'une centaine de personnes pour dénoncer les conditions d'accueil des exilés en France et le traitement réservé aux migrants désireux de franchir la frontière vers le Royaume-Uni. Les militants présents cet après-midi parlent d'un harcèlement d'État, une politique qui pousse les migrants à tenter, même en plein hiver, la traversée de la Manche. Dans la nuit de vendredi à samedi, 250 migrants ont été secourus au large de Calais. Un drame dont le gouvernement est responsable selon l'association Utopia 56. Ludovic Holbein a fait une grève de la faim pour dénoncer les conditions d'accueil des exilés en France. Une grève de la faim qu'il a arrêtée mercredi dernier après plus d'un mois.
Au moins pendant l'hiver, laissons-les souffler, c'est-à-dire arrêtons de les expulser tous les jours, c'est ce qui se passe. Tous les 48 heures, il y a une expulsion de lieu de vie. Ils vont vouloir continuer à passer, les personnes veulent continuer à passer, c'est leur projet. L'invisibilisation et le rejet des personnes en dehors du Calaisis, ça ne changera rien, ça ne réglera pas la situation. Ça fait 30 ans que les politiques s'acharnent à vouloir tenter les mêmes choses. Voilà, les réponses du gouvernement, c'est de nous dire on ne veut pas la reconstitution d'une lande. Ces jungles, elles existent, elles sont là. Et voilà, continuer à les rejeter, ça ne changera pas. Continuer à rendre les passages de plus en plus difficiles, c'est pas sauver les gens, contrairement à ce que l'État veut faire croire, c'est mettre les gens dans des situations où ils sont obligés de s'organiser de plus en plus dans des réseaux, ils sont obligés de tenter des traversées qui sont de plus en plus dangereuses. Et voilà, on en arrive effectivement à des situations dramatiques. Depuis qu'on a commencé la grève de la faim le 11 octobre, il y a eu au moins 4 décès, 6 disparus en mer et une personne est toujours entre la vie et la mort à l'hôpital. Et l'État est responsable de ça.
Un accident qui relance le débat sur la cohabitation entre l'homme et l'ours. Hier, dans l'Ariège, un chasseur a tué une ours qui venait de le mordre. L'homme de 70 ans a été gravement blessé à la cuisse au niveau de l'artère fémorale. Il est désormais hors de danger. Il participait à une chasse au sanglier quand il a été attaqué par l'ours qui, elle, était accompagnée de ses petits. Et c'est précisément parce que la femelle était avec ses oursons qu'elle a attaqué le chasseur, selon Sabine Matraire. Elle est présidente de l'association Pays de l'Ours. L'ours Adette.
C'est rare qu'un ours attaque un homme, c'est forcément qu'il a été conduit à ça. Le peu de fois où il peut y avoir des rencontres difficiles avec les ours, c'est quand une ours est suitée, puisque là, du coup, l'ours s'est retrouvé avec ses petits, donc prise dans une battue au sanglier. Il faut savoir qu'une ours qui est suitée, du coup, elle n'a pas la même puissance de fuite qu'un ours isolé. Donc, en effet, elle va se mettre d'office en mode défense de ses oursons. Et si le chasseur n'a pas la posture à adopter en cas de rencontre avec un ours lors de l'exercice de la chasse, bah, ça peut poser souci.
On vient d'entendre Sabine Matraire de l'association Pays de l'Ours à Dette. Elle était avec Bernard Thomasson. La 61e vente aux enchères maintenant des Hospices de Beaune, la plus célèbre des ventes de vin et de grands crus de Bourgogne, s'est ouverte aujourd'hui. Une vente aux enchères caritative qui a débuté dans la fébrilité après une année difficile marquée par une récolte historiquement faible. Et le clou de la vente, c'est la pièce des présidents, forcément un grand cru, le Corton Renard, adjugé 800 000 euros, c'est un record et le montant sera versé à deux associations, l'Institut Curie et la Fédération Nationale Solidarité des Femmes, Alexandre Lepère, France Bleu Bourgogne.
Ça valait bien des applaudissements de plusieurs minutes juste après la vente dans la salle des enchères. Les acheteurs et les commissaires priseurs debout pour saluer ce prix exceptionnel de 800 000 euros d'enchères, soit 140 000 euros de plus que l'ancien record de l'an dernier. Alors les enchères ont dépassé toutes les attentes ici hein, pour ce qu'on appelle la pièce des présidents, un vin rouge Corton Renard de grand cru, et il est acquis par un Italien, Mattia Tabacco, et un Français, Olivier Gasselin, deux trentenaires qui travaillent pour la société Eno Group, basée à Londres. Ils ont remporté la mise après cinq bonnes minutes d'enchères et des relances de l'un des parrains de la vente, l'acteur Pio Marmaille, qui a fait le show pour encourager les acheteurs. L'argent récolté part chez deux associations caritatives, la Fédération Nationale Solidarité Femmes et l'Institut Curie, de quoi améliorer par exemple la recherche médicale contre le cancer du sein.
Un clin d'œil pour terminer tout en lumière avec le coup d'envoi en quelque sorte des fêtes de fin d'année avec l'inauguration toujours très attendue à Paris des illuminations de Noël sur les Champs-Élysées. Bonsoir Marion Ferrer.
Bonsoir.
Alors les guirlandes sont rouges et il y a du public sur les champs.
Ça y est Frédéric, oui, les 400 arbres des Champs-Élysées viennent de se parer de leur couleur de Noël. Vous l'avez dit, un rouge flamboyant. C'est la chanteuse Clara Luciani qui appuie sur le bouton magique qui a activé à 70 000 LED. Alors, par souci écologique, ce sont les mêmes que les 4 dernières années. Mais pas de quoi décevoir Julien et sa mère Laurence.
C'est toujours un moment important, un moment de Noël, un moment de féerie qui nous illumine.
Vraiment, c'est magique. Pour moi, les Champs-Élysées, c'est Paris, c'est la France, c'est super. J'avais jamais vécu ce moment, quoi.
Du monde, il y en a beaucoup, des milliers de Parisiens, des touristes bien emmitouflés venus profiter des festivités. L'année dernière, avec le Covid et le confinement, ils n'avaient pas pu venir. Alors Evelyne a bravé le froid cette année.
À chaque fois qu'il y a un événement, on essaye de profiter parce qu'on ne sait pas si c'est le dernier à chaque fois. C'est la magie de Noël qui commence, les fêtes, l'ambiance... C'est l'emblématique de Paris, les Champs-Élysées, la nuit. Donc.
Ouais, on en profite plus, on a un peu plus de liberté, je trouve.
Et on en profite donc, et les Champs-Élysées, les 2 km en totalité, vont scintiller chaque soir jusqu'au 9 janvier 2022.
Marion Ferrer sur les Champs-Élysées avec Marc Garvenès. (rire) 19h14 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Romain Bercher.
Bonsoir Frédéric.
Mais d'abord cette information qui concerne la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai. Le président du CIO Thomas Barr a parlé lors d'une visioconférence de 30 minutes aujourd'hui avec la joueuse de tennis. Le comité olympique précise que Peng Shuai a expliqué qu'elle était saine et sauve à son domicile à Pékin, mais qu'elle aimerait que sa vie privée soit respectée. Voilà, et donc on commence avec le rallye et le Grand 8 signé par Sébastien Ogier.
Et oui, le pilote français a remporté aujourd'hui le rallye de Monza en Italie. Un nouveau succès cette saison qui lui permet de décrocher un 8e titre de champion du monde. Un de moins que le record détenu par l'autre français, Sébastien Loeb. Cette victoire dans l'émotion qui marque surtout la fin de son duo avec Julien Ingrassia, son copilote Guillaume Batin.
WRC driver champion Sébastien Ogier and co-driver champion Julien Ingrassia.
Debout sur leur voiture, le drapeau français à bout de bras, flanqué du chiffre 8, comme 8 titres de champion du monde, Sébastien Ogier et son copilote de toujours, Julien Ingrassia, ont les larmes aux yeux après avoir remporté un 54e rallye et une nouvelle couronne mondiale.
La plus grande émotion était entre Julien et moi et se dire que 15 ans aussi fructueuses se terminent, je passe l'arrivée direct à Julien qui va me manquer et un grand merci pour toutes ces années et tout ce travail fantastique à mes côtés.
Après un week-end sous la pression du rival britannique Elfyn Evans qui pouvait tout leur prendre, les deux Français ont encore gagné. Ils ferment ensemble la porte d'une longue aventure commune chez Citroën, Volkswagen, chez M-Sport, une écurie privée, et enfin chez Toyota. Ingrassia s'en va, mais Ogier reste. Le constructeur japonais prolonge le contrat avec son pilote pour quelques rallyes, pour le plaisir, le Monte Carlo en janvier, mais surtout pour débuter une nouvelle aventure en endurance au volant d'une hypercar hybride. Une voiture qui pourrait voir un jour peut-être Sébastien Ogier triompher aux 24 heures du Mans.
Guillaume Batin. Lewis Hamilton a remporté cet après-midi le tout premier Grand Prix de Formule 1 au Qatar. La 7e victoire de la saison pour le pilote britannique qui revient à 8 petits points du leader au classement, Max Verstappen, qui limite d'ailleurs la casse puisqu'il termine 2e de la course devant Fernando Alonso. A noter aussi que les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly finissent respectivement 5e et 11e. En Ligue 1 de football, en attendant le choc ce soir à 21h en clôture de la 14e journée entre Lyon et Marseille, deux prétendants au podium, Nice vient de s'imposer sur la pelouse de Clermont-Ferrand de 2-1 et remonte ainsi à la 2e place au classement derrière le Paris Saint-Germain.
Les supporters du 15 de France ont encore des étoiles plein les yeux au lendemain du succès historique de l'équipe de France contre les All Blacks.
Une belle et convaincante victoire 40-25 au Stade de France qui met fin à 12 ans de défaite face à la Nouvelle-Zélande. Au-delà de ce résultat, les Français ont surtout envoyé un message fort hier à la planète rugby. Tout cela à 2 ans de la Coupe du Monde. Chez nous, en France, les hommes de Fabien Galthié se posent véritablement en prétendant légitime pour décrocher enfin le trophée Web Ellis. Fanny Lechevestrier.
Car dans le sillage de ce succès, c'est toute une image des Bleus qui a changé hier soir. Oubliez la satanée défaite encourageante ou quand, dans les années 2000, les guignols de l'info aimaient se moquer des déroutes tricolores face à ces mêmes Blacks.
Bernard, c'est une défaite lourde. Comment vous analysez ce match?
L'analyse est simple. Je crois qu'on a pris des essais au plus mauvais moment.
C'est-à-dire?
Tout au long du match. De la 4e à la 80e minute, tout le temps, dans tous les sens, entre les poteaux, sur les côtés, en riant, les mains dans les poches. C'est fini, Fabien, c'est fini.
Aujourd'hui, le 15 de France ne fait plus rire et son sélectionneur, Fabien Galthié, parfois critiqué, a fait mieux que valider 2 ans de mandat. Il a ouvert le champ des possibles, comme le reconnaît le manager Raphaël Ibanez.
Ce sont des moments énormes, mais je dirais surtout très prometteurs pour la suite. Ça nous a donné une petite idée de ce qui pourrait se passer d'ici 2 ans. Et c'est aussi, je crois, modestement, un petit signal que l'on envoie aux autres nations en vue de la Coupe du Monde 2023.
C'est dire ce soir, même les Anglais envient les Frenchies. Cette brise exaltante, selon The Independent, avec une forme de rugby qui fait vibrer l'âme de leurs supporters pour le Sunday Times. Mais avec un jeu pareil, il n'y a pas que les tribunes des stades qui vont se remplir en vue du mondial, mais aussi les effectifs des clubs, avec des enfants qui vont rêver désormais de devenir les Movaca, Dupont, Tamac ou Jaminet de demain.
Fanny Lechevestrier. Un week-end décidément qui réussit aux sportifs français puisque Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté aujourd'hui le Masters de tennis en double à Milan en Italie. Le 2e de leur carrière, succès en finale contre la paire américano-britannique Ram Salisbury. Et tout ça en 2-7.
Et puis c'est la dernière ligne droite pour les concurrents de la Transat Jacques Vabre.
Effectivement, arrivée prévue mardi en Martinique où l'on vous retrouve en direct. Jérôme Val, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Sur place, ça y est, tout est prêt, il ne manque plus que les skippers.
Oui, le décor est planté dans la baie de Fort-de-France, la plus belle du monde, vous diront ses habitants. En tout cas, c'est vrai, c'est un sublime écrin pour le final de cette transat. Les pontons sont installés, sans bateau évidemment. Le village d'accueil est lui mis en place avec de la musique zouk pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Mais le tout, et vous le savez, on en a parlé dans un contexte lourd, on connaît la situation sanitaire dans les Antilles. Alors, rien à voir avec celle en Guadeloupe pour l'instant, mais à partir de demain, un mouvement de grève générale est lancée dans toute l'île. Difficile d'anticiper quelle en sera l'incidence sur les festivités de cette transat. Mais c'est vrai qu'il y a un contexte assez particulier autour de la course. En attendant, c'est bien sur l'eau que tout se passe. Les bateaux les plus rapides devraient franchir la ligne ici dans la nuit de lundi à mardi au petit matin en métropole. Mais qui en premier? Un Ocean 50, ce sont les multicoques de 50 pieds ou le maxi trimaran ultime du duo Franck Camas-Charles Caudrelier. Eh bien, pour l'instant, impossible de le dire. Et pour le reste de la flotte, celle des IMOCA, les monocoques du Vendée Globe, eh bien, ils ne sont pas attendus ici à Fort-de-France avant jeudi.
Merci beaucoup, Jérôme Val, en direct de Martinique pour France Inter. Merci aussi à Sandrine Malon pour les moyens techniques.
Et on s'arrête maintenant sur le combat d'un gymnaste français. Peterson Seus se bat pour plus d'égalité dans la gymnastique rythmique. Les hommes ne sont pas autorisés à concourir au plus haut niveau. Ils ne peuvent pas intégrer les équipes de France. Winnie Claret l'a rencontré pendant l'un de ses entraînements en région parisienne. Peterson Seus, le Billy Elliot de la gymnastique rythmique, c'est le long format de ce soir.
Je m'appelle Peterson Seus, j'ai 23 ans et je fais de la gymnastique rythmique depuis que j'ai 11 ans.
Il nous raconte sa passion en plein milieu de sa séance d'étirement. Grand écart facial en écrasement pendant de longues minutes.
Avant, j'avais fait plein d'autres sports et un jour, comme ça, je suis tombé sur une vidéo YouTube d'une gymnaste qui s'appelle Marina Specht. Ça m'a beaucoup rappelé à ce que je faisais quand j'avais 6 ans et que je faisais du cirque. Donc j'ai voulu essayer. Depuis, j'y suis.
Depuis, Peterson Seus a gravi les catégories et accumulé les trophées de champion de France jusqu'au plus haut niveau, ou plutôt le plus haut niveau pour les hommes.
Les garçons qui s'inscrivent en GR doivent obligatoirement concourir dans les catégories qui sont créées à la base pour les femmes, jusqu'à un certain niveau qui est le niveau dans lequel je suis aujourd'hui, qui est le niveau juste au-dessous de tout ce qui est catégorie élite, espoir et équipe de France.
Au-dessus, c'est le plafond de verre. L'élite de la gymnastique rythmique est réservée aux femmes. Pas de statut de sportif de haut niveau, donc, pour les hommes. Alors, il y a quelques années, Peterson Seus a envoyé une lettre à la Fédération française. Il reçoit en retour un coup de téléphone. On lui explique que les garçons n'ont pas le niveau pour concourir en élite. Et puis, de toute façon, il n'y a pas assez de pratiquants pour créer une catégorie masculine. Un simple prétexte, selon le gymnaste.
Les garçons ne s'inscrivent pas à la GR à cause de l'image qu'elle renvoie par rapport à la manière dont on la promeut. Le fait que l'on parle souvent de féminité, etc., ça fait souvent peur aux parents qui veulent pas nécessairement inscrire leurs petits garçons qui peuvent être intéressés.
Pour l'instant, on ne compte qu'1% de licenciés masculins, 385 pratiquants selon la FFG. La gymnastique rythmique qui n'emmène donc pas d'hommes dans ces compétitions internationales comme les Jeux Olympiques. Pourtant, même la natation synchronisée, longtemps réservée aux femmes, a lancé le duo mixte en 2015.
C'est maintenant le seul sport olympique où les hommes ne sont pas représentés. Ça paraît très étrange de parler d'olympisme et en même temps de se rendre compte qu'il y a encore un sport qui discrimine officiellement la moitié de la population.
Au fond, c'est l'image de sport de filles qui colle encore à la peau de la gymnastique rythmique et qui préoccupe certains parents. Avec les justes au corps des gymnastes, leurs strass, leurs cristaux, Peterson Seus en porte en compétition et qu'on ne lui parle pas ici de féminité.
Personne ne serait capable de réellement définir ce qu'est la féminité et la masculinité dans le sens où c'est un terme qui, entre guillemets, change en fonction des périodes et en fonction des régions dans lesquelles on vit. On devrait plutôt parler de ce qu'on l'on considère comme étant élégant, par exemple.
Une élégance reconnue en Espagne qui a développé un championnat d'élite 100% masculin. Le Français est licencié dans un club basque et il est devenu champion du pays il y a 2 ans.
Peterson Seus, le Billy Elliot de la gymnastique rythmique, son portrait à retrouver en images sur franceinter.fr. À suivre la semaine prochaine et on ouvre la page agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec plusieurs rendez-vous sur l'agenda judiciaire d'abord et le jugement rendu mercredi dans le procès du footballeur Karim Benzema dans l'affaire de la sextape. Le parquet a requis 10 mois de prison avec sursis et puis demain l'interrogatoire de François Fillon. L'ancien Premier ministre doit être interrogé au procès en appel dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif. Sur l'agenda présidentiel, plusieurs rendez-vous, un agenda très chargé. Emmanuel Macron sera demain à Amiens pour annoncer l'implantation d'un nouveau pôle de la Bibliothèque nationale de France. Visite officielle en Croatie mercredi, jeudi, cérémonie de signature d'un traité de coopération entre la France et l'Italie à Rome. Le lendemain, vendredi, Emmanuel Macron sera reçu par le pape François, Bruce de Galzin.
Il avait raté le coche lors du G20 à Rome il y a à peine 3 semaines. Emmanuel Macron n'avait pas demandé à être reçu par le pape. Il y avait aussi quelques embouteillages à ce moment-là. Il fait cette fois-ci d'une pierre 2 coups la signature du traité franco-italien et sa 2e visite au Vatican. L'Élysée a insisté, très motivé, nous dit-on ici, où la délégation était déjà présente cette semaine pour préparer en détail cette visite d'État. François recevra Emmanuel Macron volontiers, avec bienveillance, nous dit-on encore, même si le pape n'a rien de spécial à lui dire. La visite de Jean Castex, il y a seulement 1 mois, avait porté notamment sur le rapport de la SIAZ. Les positions sont souvent convergentes sur la COP, par exemple, la situation au Moyen-Orient, la question des migrants est plus délicate, mais c'est sur le nucléaire que les positions divergent vraiment, car le pape appelle au désarmement. Lors de sa visite en 2018, Emmanuel Macron avait un peu surjoué son amitié avec François, qu'il apprécie, c'est vrai, comme la France, et l'Église de France, qu'il qualifie de créative. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et puis sur l'agenda, à la page de mardi, le lancement de la 37e campagne d'hiver des Restos du Cœur. Et on va donc s'intéresser ce soir et tirer un coup de chapeau à tous ces bénévoles qui s'investissent pour Noël. C'est mon actu. Sandrine Houdin a rencontré Jean-Luc, un Père Noël vert. Une nouvelle fois, le Secours Populaire Français active ses Pères Noël verts pour donner un coup de main au Père Noël rouge pour que chaque enfant puisse recevoir un cadeau. Les Pères Noël verts vont s'y la France entière pour collecter des fonds et parmi eux, Jean-Luc, retraité du bâtiment, il habite Neuilly-sur-Marne et il a participé un peu par hasard à la journée de lancement cette semaine à Paris des Pères Noël verts. Il y avait 5000 enfants présents et un de ses copains lui avait juste proposé de passer donner un coup de main. La suite, il nous la raconte.
Je suis arrivé là-bas et tout, j'ai demandé ce que je devais faire, bah la dame m'a dit bah vous allez aider là-bas, machin, ici et ça quoi. Et puis du coup, j'entends parler de Père Noël vert.
Vous ne connaissiez pas ?
Non, je connaissais pas moi, pas du tout. Puis elle me dit bon bah on va vous amener le costume, bah je dis ouais, moi OK, il y a pas de problème, je suis partant. Hop, devant les sapins à l'entrée là.
Ça veut dire que le matin même, vous ne saviez pas que vous seriez Père Noël ?
Mais non, pas du tout.
Et vous gardez quel souvenir de cet après-midi ?
Eh ben j'ai ça.
Voilà. C'est quoi ?
Ben c'est un bonnet de Père Noël. Bon allez, je vais le mettre parce que voilà, je sais pas si c'est super, mais enfin bon. Non, on ne rit pas, c'est pas la peine.
Le pompon est mal mis.
Le pompon est mal mis.
Et au-delà, okay. Au-delà de ça, ces petits gamins, qu'est-ce que vous gardez ?
Ah mais moi ça m'a fait chaud au cœur, franchement, quand ils sont arrivés vers moi, puis qu'ils m'ont fait des bisous. Il y a une petite gamine qui me dit « Père Noël, t'as reçu ma vidéo ?» Et je vois la mère qui me fait un clin d'œil. Je fais « Ah oui, j'ai bien reçu ta vidéo. Mais dis donc, je lui dis, t'as demandé beaucoup de cadeaux, il me semble. Hein. » Elle dit « Oui, mais elle me dit, je suis bien contente parce que t'as reçu ma vidéo, Père Noël. » Un gamin était haute comme trois pommes. Il y a un petit black aussi. « Paf, il me tire sur la barbe. » Je dis « Mais non, faut pas faire ça. » La mère, elle me dit « Ah, mais c'est comme ça, les enfants d'ici. » Ah, je dis « Bah oui, mais enfin, quand même. » Ah oui, moi, j'avais des frissons de la tête aux pieds par moment.
Vous n'avez pas pleuré, Père Noël ?
Bah, j'ai pas été très heureux non plus quand j'étais gamin. Moi j'ai eu du chocolat, j'ai eu des clémentines, c'est tout quoi. Là je me suis dit, moi j'ai pas eu ce que je voulais, peut-être qu'ils auront ce qu'ils auront commandé à Noël quoi. Je suis désolé.
Séchez vos larmes, Père Noël, s'il vous plaît.
Ce jour-là, j'ai même chanté Petit Papa Noël façon Tino Rossi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier.
Bon allez, rangez votre bonnet. Merci pour tous ces gosses, Père Noël.
C'est pas à moi qu'il faut dire merci, c'est au Secours Populaire.
Voilà le Père Noël vert Jean-Luc dans C'est mon actu, Sandrine Houdin. Et si vous voulez aider Jean-Luc et tous les autres, vous pouvez vous rendre sur le site secourspopulaire.fr. Au générique de cette édition, Jenab Sangaré, Clément Berman qui m'ont aidé à préparer ce journal. Un grand merci à Anne Patinec, également à la rédaction en chef, assistée de Swad Bellani et Rachid Zourdani. Merci aussi à vous d'avoir écouté ce journal. Dans un instant, la météo.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Demain, les températures vont prendre un coup de baisse, partie de 2 à 5 degrés sous abri dans l'intérieur en fin de nuit, entre 6 et 9 sur les côtes. Les valeurs maximales vont se limiter à 7 degrés de moyenne, de Rhône-Alpes au Grand Est et du centre Val-de-Loire au nord de la Seine. Il est prévu 8 à 10 sur la façade atlantique, 14 à 18 entre Montpellier, Nice et Ajaccio. Des températures naturellement données sous abri, car au vent, orienté au secteur nord, le ressenti sera beaucoup plus frais. Avec ce lundi des éclaircies plus ou moins durables du nord de la Loire aux frontières du Benelux, mais ponctuées de fortes averses sur les côtes de la Manche. Dans la moitié sud, le Roussillon, le Languedoc et l'ouest de la Provence vont retrouver le soleil, mais ailleurs, comme la veille, la grisaille va conserver la main, ponctuée de pluies faibles, avec des flocons à partir de 700 mètres sur les Vosges, le Jura et le Massif central, 1000 mètres sur les Pyrénées et 1500 sur les Alpes.
Jean-Michel Golinski de Météo France.